moment précieux de la proclamation de la parole de Dieu. Seigneur, on est assemblés à ta demande. Tu nous as demandé, Seigneur Dieu, de se rassembler autour de ta parole pour pouvoir amener notre reconnaissance et de s'attendre de toi, Seigneur Dieu, la provision que toi seul peux donner. Seigneur, tu nous connais tous ici. On est tous venus avec soit des questions, des besoins, ou encore besoin de réconfort, de confirmation. Seigneur, je te demande que quand on se rassemble ensemble, on devienne de plus en plus conscient qu'on fait l'acte de foi de venir auprès de toi, Seigneur Jésus. Toi qui nous as rachetés, toi qui as triomphé du péché, comme on l'a chanté, Seigneur Dieu, il y a maintenant, par toi, Seigneur Jésus-Christ, plus de gouffre de séparation entre nous et ton Père, entre nous et Dieu. Seigneur, tu nous es devenu favorable. Merci qu'on puisse goûter encore aujourd'hui ta bonté, Seigneur Dieu. Seigneur, il y a juste toi qui peux répondre à des secrets. Il y a juste toi, Seigneur Dieu, qui peux montrer que tu es vraiment au milieu de nous. Alors manifeste-toi encore aujourd'hui. Et qu'on soit encouragé, consolé, béni, fortifié dans notre foi. Et qu'on soit une bonne nouvelle en sortant d'ici, Seigneur Dieu, pour un monde qui doit absolument revenir à toi. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre espoir pour l'humanité. Sinon toi, ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, à la croix. Ta mort pour nos péchés. Ta résurrection pour manifester que la dette a réellement été payée. Alors merci encore une fois d'être au milieu de nous et de nous parler ce matin, Père. Par Jésus-Christ qu'on prie. Merci Seigneur. Amen. Si vous voulez tourner avec moi dans Colossiens, toujours au chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de nous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce à Dieu, ou rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, on avait vu ici, la dernière fois que j'étais avec vous, Paul se présente comme apôtre. Et on avait vu que les apôtres aujourd'hui, selon les Écritures, c'est un ministère qui a atteint son but et qui est maintenant accompli, et ça n'existe plus. On peut avoir comme des fois qualificatif, tu sais, de dire, je ne sais pas moi, par exemple, ça va être la Saint-Patrick bientôt, là. Et puis souvent on l'appelle les apôtres des Irlandais. Mais en réalité, on peut donner finalement l'appel de quelqu'un d'envoyé par. Et quand vous faites une étude du Nouveau Testament, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont appelés apôtres, mais, faites attention, apôtres de l'Église. Il y a des églises qui ont envoyé finalement des gens, et c'est traduit dans nos Bibles souvent, pour pas qu'il y ait de confusion, les délégués de telle église, mais c'est le même mot, apôtre. Donc, apôtre, ça a un sens général qui veut dire un délégué, un envoyé de quelqu'un à qui vous donnez l'autorité de représenter le groupe qui l'envoie, un peu comme un ambassadeur qui va représenter un pays et qui reçoit un certain pouvoir. Okay? Mais Paul ici se classe parmi les apôtres de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu. Et les autres apôtres, en dehors des 12, sont des envoyés ou des délégués d'Église, mais ils n'ont pas la même autorité que les apôtres, comme ici Paul et les 12. Paul nous rappelle ici qu'un apôtre, il l'écrit surtout aux Éphésiens, il développe finalement que la nouvelle alliance, son fondement, comme l'ancienne alliance, c'était Moïse. Moïse a reçu l'alliance et il a dit finalement, voici comment on doit croire, aborder Dieu, c'est une alliance, c'est un contrat. Et les prophètes de l'Ancien Testament élaboraient cette alliance. Ils n'en ont pas ajouté. Si vous étudiez vraiment les prophéties de l'Ancien Testament, un prophète ne vient pas ajouter à la révélation, il l'élabore. Il va rappeler au peuple pourquoi, en ne respectant pas l'alliance, eh bien, voici les conséquences qui vont arriver. Ou si vous obéissez à l'alliance, voici les conséquences qui vont suivre. Et quand les prophètes annonçaient une chose à venir, C'est que Dieu était pour les livrer entre les mains de leurs ennemis, par exemple. Ce n'était pas la force de leur message, parce que trop souvent, quand on entend le mot « prophète », qu'est-ce que ça vient chercher dans notre tête? C'est, qu'est-ce qu'on a développé comme synonyme souvent? Un prophète, c'est quelqu'un qui... Bon, un prophète de malheur. M'en demande d'être un prophète de malheur. Quand on pense quelqu'un, on dit quelqu'un est un prophète, quel est le premier réflexe qu'on pense qu'il va nous dire? Il va nous dire l'avenir. C'est vrai qu'ils peuvent annoncer des événements qui vont venir, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout le comment je pourrais dire, ouais, la nature même de leur ministère, de leur message. Ils viennent nous parler au nom de Dieu en fonction de l'alliance qui a été établie et ils vont nous éclairer en fonction du contrat. Parce que la relation avec Dieu n'est pas une relation qui flotte comme ça dans du romantisme tout croche. Le danger, quand ce n'est pas clair le contrat, eh bien, c'est que les gens commencent à fabuler, vivre n'importe comment en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. On met trop de choses sous la grâce de Dieu. Il y a même des gens qui peuvent vivre contre Dieu, contre ses ordonnances, en disant, c'est pas grave, je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. C'est comme, je ne sais pas, moi, imaginez, quel est un des contrats les plus ressemblants à notre salut en Jésus-Christ qu'on vit humainement? Le mariage, OK? Donc, si on pense, un homme et une femme se marient, et puis ils portent un petit signe, l'alliance. Nous autres, le dimanche, le pain et la coupe. Faites ceci en mémoire de moi. Quand on mange ce pain et qu'on boit cette coupe, on déclare la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On déclare qu'on est associé à cette œuvre. Ça marche? C'est une alliance. C'est comme... Maintenant, supposons que je suis marié avec ma femme. C'est pas supposons, je suis marié avec ma femme. Et puis, je trouve que la voisine m'inspire bien. J'ai ça dans mon cœur. Il ne faudrait pas que ma femme soit méchante quand elle me garde égoïstement juste pour elle. Donc, vous savez, si je ne suis pas en train de relire le contrat régulièrement, parce qu'il y a un contrat quand vous vous mariez, il est signé puis il est envoyé auprès du gouvernement. On est supposé d'être en alliance pour se bénir, se protéger, s'aider mutuellement, développer une relation ensemble. Et Dieu lui-même donne aux chrétiens, par exemple à cette alliance, des choses très claires, pas vrai? Regardez Hébreux 13, verset 4. Vous allez comprendre le parallèle après ça qu'on fait dans notre vie chrétienne. Il dit « Que le mariage soit honoré de tous » et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Donc, quand je me marie, je ne peux pas simplement vivre selon les traditions de mon pays du mariage. En tant que chrétien, quand je me marie, je réalise qu'en me mariant, je vais être une image. Des chrétiens qui se marient deviennent l'image de Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 5 à la fin. Et donc, quand il dit ici que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, de quel genre de souillure vous pensez? Tu sais, un petit vomi? Non, en réalité, c'est ce lit-là, il est réservé pour l'homme et sa femme. Personne d'autre s'en vient là. Personne. On est dans une époque qui banalise la sexualité d'une manière incroyable. On l'a mis au rang quasiment de la nourriture. T'sais, on pense que la sexualité, c'est quelque chose qui domine de la même manière que, je sais pas moi, les gens vont dire, ben écoute, faut que j'aie une sexualité, comme si tu as faim, tu vas aller manger un hamburger. Pas vrai? Je vous dis, de plus en plus, c'est tellement banalisé que même dans nos écoles, on veut apprendre nos enfants à explorer leur sexualité, mais en dehors de la relation. En dehors de, un, La première chose que sexuellement tu dois posséder quand Christ te redonne ta vie, quand il te rachète, une des caractéristiques du croyant, c'est de posséder sa personne. En d'autres mots, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes sauvé, que vous possédez votre personne, que vous n'aurez jamais de tentation. Je ne sais pas qui c'est qui a dit l'illustration, mais bonne, là. C'est dans le temps que les gens portaient des chapeaux. Tu ne peux peut-être pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête. Par contre, tu peux l'empêcher de faire un nid dans ton chapeau. C'est qui ça? Ah, c'est Luther, ça? C'est son genre, mais ça, c'est ça. Fait que l'image est bonne. En d'autres mots, on peut tous être exposés à des tentations. On peut tous être, à certains moments dans notre vie, plus vulnérables qu'à d'autres moments. Pas vrai? Vous pouvez dire oui, vous êtes à l'église. On n'a pas de mentir ici, normalement. Mais ce n'est pas parce que, finalement, je peux avoir des tentations, le danger en plus, je peux avoir même des raisons. Je peux me mettre à expliquer toutes sortes de raisons, puis le monde se fournit des raisons pour, psaume 2, dire « Débarrassons-nous de leur joug, le joug du Seigneur. » Et puis le Seigneur rit de ces nations-là, ils sont comme une poussière. Puis à un moment donné, ils vont être terrifiés. Donc, Paul nous rappelle, quand il écrit entre autres aux croyants, dont les Colossiens, il dit « Rappelez-vous, si vous ne contenez pas votre vie, rappelez-vous que c'est pour ces raisons-là que la colère de Dieu s'en vient sur le monde. Donc, nous autres, les croyants, on est de plus en plus en train de marcher dans cette lumière et surtout de faire très attention de se raconter des histoires à notre sujet, de propendre, tu sais, dans le sens d'oublier que cette nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ a commencé dans cette chair. Et dans cette chair, il y a deux choses. Comme tu as dit, c'est sûr, il ne faut pas juste parler des choses que je n'ai pas à faire. Mais pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, comment ça se fait que la même Bible est lue par tout le monde, mais elle n'a pas le même effet chez tout le monde? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est faible? Ou est-ce que c'est le type de cœur qui le reçoit? Jésus nous a parlé de quatre sols. La même parole de Dieu va être proclamée. Certains, leur vie va être complètement transformée, ça va germer, ça va porter du fruit, 30, 60, 100 pour un. D'autres, dès qu'ils ont entendu quelque chose, le malin passe dans le bout, il sait très bien que le cœur est fermé et il mange cette semence comme les oiseaux mangent le grain qui est semé sur le bord du chemin. Et après ça, ils s'en vont et ils ne se rappellent même plus du message. Ça ne les a pas marqués. Maintenant, si la parole de Dieu nous exhorte à mortifier, à faire mourir les membres du corps, comme il va en parler un peu plus loin dans Colossiens, il dit, juste, on va sauter bien vite, on va juste aller voir là, puis on reviendra après. Regardez finalement au chapitre 3. Donc, il parle à des croyants, n'oubliez pas ici, hein? Parce qu'au chapitre 3, verset 1, il commence en disant, « Si donc... » dans tout ce qu'il vient de montrer ici. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Quand même bizarre, on est mort. Bon, on a encore les nerfs qui bougent un peu, mais on est mort, OK? Et votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bon, maintenant, le travail. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. S'il y avait été juste là, c'est faites donc mourir les membres sur la terre, tu te demandes quoi, là? Un bras, une jambe? Voici ce que lui appelle les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Est-ce quelqu'un qui peut comprendre, ça veut dire quoi ça? De l'impudicité. Ça, si on lit et on ne sait pas ce que ça veut dire, on pense quoi? C'est-tu une tique? C'est-tu une puce? C'est une coquerelle, ça, cette affaire-là? De l'impudicité. Un, quand il y a un mot, c'est déjà négatif de quelque chose. Négatif de quoi? Négatif de la pudeur. Faites mourir tout acte au milieu de vous qui manque de pudeur. Maintenant, c'est quoi ce de la pudeur? Oui, c'est de garder pur par rapport à l'immoralité sexuelle. Tu sais, il y a des modes, hein? Tout dépendant où ce qu'on a été élevé. Je vais vous dire un petit secret de famille. Chez nous, c'était plus relax un peu. Fait quand j'étais petit, quand tu es tout petit, c'est normal, tu te promènes tout nu dans la maison, tu comprends? Hein? Puis tu grandis au milieu de la famille. Puis mon père, d'un fois, était tout nu. Puis d'un fois, oups, ma mère était tout nu. Mais rendu un certain âge, gros malaise. Je n'aimais pas bien ça, voir mon père tout nu, ni ma mère. Tu sais, c'était comme... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est sûr, quand tu t'aperçois que la sexualité, c'est ce qui t'a mis au monde, tu dis, ah, wesh! C'est-tu de même qu'ils m'ont fait? Ça va. Parce que tu as un ange, je ne sais pas trop si ça existe encore, mais il y avait une époque où il y avait un ange où les petits gars, ben, ils n'aimaient pas ça voir du monde s'embrasser, ni les petites filles. Tu sais, ils voyaient souvent des parents, « Oh, wesh! » Tu sais, des bouches, « Wesh! » Ça va? Puis même, je ne sais pas, tu as une période quand tu es tout petit, les petites filles, ben, ils ne trouvent pas ça intéressant, pas en toutes, les petites filles, pas en toutes, là, tu sais. Ça veut dire la même chose pour les petites filles. Non? Me semble. Et de provoquer de l'impudicité à ce niveau-là, ce n'est pas le fun, pas en toutes. Même au contraire, on dirait que ça brise une naïveté qui doit être gardée. Tiens, on dirait qu'on provoque, on provoque artificiellement aujourd'hui, par un mode d'impudicité, on dirait des enfants devenir adultes trop vite. Puis ça enlève la naïveté, ça enlève le côté, tu sais, je ne sais pas, c'est pas le temps. Même dans le Cantique des Cantiques, il y a souvent ce rime qui revient, tu sais, c'est même pas un rime, comment on dit ça dans les chants? Un refrain, merci, voilà, un refrain. Ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. C'est vraiment beau. Puis c'est parce que c'est vraiment un livre poétique qui est écrit justement pour la relation d'un homme et d'une femme. Oui, je sais qu'on en parle toujours de manière spirituelle, tu sais, Christ et l'Église, c'est vrai, on peut en faire une application, mais on oublie que c'est aussi un des livres de sagesse, sur un des rapports humains les plus intenses, l'amour. L'amour qu'on a, l'homme et la femme, et puis qui crée finalement, carrément, qui procrée la prochaine génération. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement beau. Mais comment le diable aime souiller et salir ce qui est beau à la gloire de Dieu? Tout le temps. Donc, faites mourir les membres. Un, l'impudicité. On doit avoir une manière de vivre qui valorise la pudeur. C'est important. Même dans les types de jokes qu'on fait, ou toutes sortes de choses, c'est vraiment important qu'au milieu de nous, il n'y ait pas ce malaise sur la pudeur. Et après ça, il parle de l'impureté. En d'autres mots, tout ce qui n'est pas pur. Maintenant, il y a toutes sortes de formes d'impureté. Il va souvent même mentionner aux ouvriers de travailler, d'avoir un cœur simple devant le patron. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Bon, tu sais, au Québec, on a un autre mot pour simple. Hey, il fait simple pas mal. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le mot veut dire simple. Simple, là, c'est différent d'une autre expression, double. Quelqu'un qui est double, il n'est pas simple. Être double, c'est de faire une chose, mais pour faire d'autres choses. Et puis Dieu nous appelle à vivre de manière simple. Donc ça, c'est vraiment important pour nous d'apprendre. Juste un exemple. On travaillait, par exemple, en Haïti, puis on a demandé de pouvoir changer un règlement. La fondation qui s'occupe finalement de payer finalement pour l'éducation des enfants, hein, qui a rendu à 200 quelques enfants, 250, 260 enfants, il y avait des conditions à remplir pour pouvoir être admissible à ce programme. Et une des conditions, c'est que si la fondation prenait un enfant, il fallait que l'enfant aille dans une certaine église, dans une certaine dénomination. On est un petit peu mal à l'aise avec ça. Et puis, on a parlé avec les autorités et on leur a demandé, pour le village dans lequel on s'occupe, est-ce que vous nous permettez de faire une norme différente? Si on investit dans une maison pour l'éducation, on voudrait que ce soit que pour l'éducation. Quand on va prêcher l'Évangile, on va prêcher l'Évangile. Quand on va soigner les gens, on va soigner les gens. Afin de faire une action simple. Si tu nourris quelqu'un qui a faim, puis il te demande « Pourquoi tu me nourris? » Ben, c'est parce que tu avais l'air ou faim. C'est tout? Ben, c'est assez, tu trouves pas? Plutôt que dire « Regarde, je te donne un petit bout de pain, hop! » Attends, faut que je te prêche l'Évangile avant. Le pain du ciel. Ben ça, c'est double. Je suis désolé, je sais que tes gens vont dire « Non, mais qu'est-ce que c'est important de prêcher l'Évangile? » Certainement, c'est important de prêcher l'Évangile. Mais soyons un peuple reconnu pour sa simplicité de cœur. Pas des gens doubles. Il n'y a rien de plus fatigant de parler avec quelqu'un, tu ne sais pas s'il dit quelque chose pour te le dire ou s'il est en train de dire quelque chose pour t'amener à quelque part. C'est fatigant, ça? Moi, ça me tape ses nerfs, pas à peu près. Quand je reçois un courriel, « Salut, comment vas-tu? » Là, il s'adresse au singulier, il doit me s'adresser à moi. Et quand je vois que je fais partie d'une liste, je floche le courriel. Ça, ça m'insulte au plus haut point. Tu me prends-tu pour un épais, toi, là? Si tu parles à plus de deux personnes, j'ai appris à petite école, tu mets ça au pluriel. Parle-moi pas au singulier si tu parles à 150 personnes. Parle-moi au pluriel. Pour moi, c'est ça, des actions simples versus doubles. Je tannais des méthodes. Parce qu'à un moment donné, tu deviens un peu parano en disant, « Coudonc, il me parle-tu à moi? » Bien, il est en train de pratiquer une nouvelle méthode sur moi, là. T'sais? Puis là, les chrétiens, des fois, ils veulent tellement réussir qu'ils sont prêts à apprendre des méthodes du monde, comment vendre un frigidaire à un Inuit. Non, il paraît que c'est bon pour les Inuits parce que ça ne gèle pas au moins le frigidaire. T'sais. En tout cas, c'est une autre histoire. Bref, comprenez ce que je veux dire? Soyons des gens qui vont purifier leurs motifs. Et une des manières de purifier notre motif, c'est d'être pas double. Et puis, il continue l'apôtre en disant, les passions, c'est tout ce qui dépasse ta raison et qui t'amène à la destruction. C'est pas positif. Je sais qu'aujourd'hui, on change les mots, on a perdu le sens des mots, mais passion égale quelque chose qui t'amène à la mort. C'est pour ça qu'on appelle l'œuvre de Jésus-Christ, lorsqu'il va accepter d'aller dans le jardin, la passion du Christ. Là, il va s'engager dans quelque chose qui l'amène à la mort. Ça, c'est une passion. Mais nous, on cherche tellement à amplifier les choses qu'on fait un peu de l'inflation verbale souvent, et puis on enlève le sens des mots. Par exemple, on adore la crème glacée. Bien, aujourd'hui, ça ne peut rien dire que j'adore Jésus. J'adore Jésus, j'adore ma perruche, j'adore la crème glacée, puis j'adore ma femme. Mais j'adore surtout mon char, pour certains. Ça ne veut plus rien dire, le mot « adore » après. C'est pas une question que je suis le chrétien, tu n'as pas le droit de dire le mot « adore », tu as péché. Non, c'est juste que tu vides les mots de leur sens. Puis à un moment donné, quand on se parle, on est obligé de s'expliquer à plus finir parce que les mots n'ont plus de sens. C'est pour ça qu'on a simplifié le langage, puis on n'a quasiment plus dans une nouvelle version le mot « charité ». Charité se distingue au fond d'aimer. Parce que chez les Grecs, il y avait plusieurs termes. Fait qu'au moins en français, on avait gardé un terme qui se distinguait de charité versus amour. Mais à un moment donné, on descend et on nivelle de plus en plus par le bas. Et plus vous êtes en train de baisser vers le bas pour niveler finalement pour que ce soit le fun pour tout le monde, vous allez réaliser une chose, on augmente de plus en plus l'émotionnel. Plus on baisse la raison, plus il faut trouver une autre stimulation, plus on essaie de faire vraiment quelque chose de très affectif, de très émotionnel. Au point que les artistes sont bien sympathiques. Hein? Ce sont le fun, les artistes. Mais quand tu es rendu, tu demandes à un artiste, un gratuit de guitare, qu'est-ce qu'il pense de l'économie mondiale? Je ne comprends pas, moi, là. Il sait faire des belles accords, mais il y a quoi à voir. La plupart des gens vont chercher pour que le show se vende, des gens populaires. Va me chercher un expert dans le domaine. Même s'il est plate quand il parle, au moins on va avoir l'heure juste. Je ne veux pas avoir un gratuit de guitare qui va me parler du coronavirus. Tu comprends? En trois accords. Donc, c'est pour ça que, avec les mauvais désirs, la cupidité, ça c'est un terme souvent qu'on entend souvent, mais si on n'arrête pas pour dire Ça veut dire quoi, ça, cupidité? Ça n'a rien à voir avec Cupidon, OK? Cupidité. C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent au détriment des relations humaines. L'amour de l'argent comme ton salut. Et Paul nous rappelle ici que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Donc, tout ça pour revenir à comment je travaille un terrain que quand la parole de Dieu, parce que regardez comment ils ont finalement, Paul dit, il rend grâce à Dieu pour les Colossiens, il dit verset 3 ici du chapitre 1, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Regardez, cette parole a été prêchée, entre autres, par Épaphras, qui, lui, l'a reçue de l'apôtre Paul à Éphèse, parce que Paul, à Éphèse, avait fait une école biblique où il enseignait à tous les jours. Et en passant, c'était toute la journée. Maintenant, les gens qui allaient à cette école-là retournaient après ça dans leur région et ils devaient sûrement amener la bonne nouvelle. Donc, Épaphras est un disciple de l'apôtre Paul. Il l'appelle ici notre compagnon d'œuvre, ainsi de suite, là, de service. Mais avez-vous remarqué que si cette même parole, ce même message peut être annoncé à tous, il n'y a pas le même effet chez tout le monde. Fait qu'il y a une chose. Oui, la souveraineté de Dieu, c'est une chose, OK? C'est une chose. Mais j'aimerais juste nous rappeler une autre chose. Vous pouvez travailler le cœur. Vous pouvez travailler votre attitude. Ça se travaille. Si vous vivez dans toutes sortes de raisonnements qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, vous êtes inévitablement en rébellion contre Dieu. Et beaucoup de fois, on essaie de raisonner pour justifier ce que Dieu condamne. Et puis, on peut se donner une foule de gens qui viennent confirmer ce qu'on voudrait bien entendre. Plutôt que d'admettre que tu es en échec, il est venu sauver ce qui était perdu. Il est prêt à pardonner ceux qui vont échouer pour leur montrer maintenant comment trouver en lui ce qu'on a trouvé toute notre vie ailleurs qu'en lui. Mais tant qu'on va raisonner, tant qu'on va se trouver les excuses du monde, eh bien, on est les gens, en passant, faites attention, parce que Paul va parler un peu plus loin en disant, si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans l'Évangile ou dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Il est-tu en train de parler ici que si je ne demeure pas dans la foi, je perds mon salut? Non. Il est en train de rappeler en disant, on va voir ceux qui l'ont vraiment reçu. Ils vont persévérer. Faites attention de penser qu'on peut abandonner sans problème et qu'il n'y a pas de conséquence à ça. Il y a une conséquence à l'abandon. Ça peut révéler, parce que regardez, vous savez, j'ai toujours été un petit peu prudent sur les témoignages, rendre nos témoignages. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que nos enfants, on les élevait à ce qu'ils ne soient pas aussi idiots que nous autres quand on ne connaissait pas le Seigneur. Parce que le mal n'est jamais bon. Le mal va toujours affaiblir une personne qui y touche. Puis parce qu'il y a une théorie niaiseuse dans le monde qui dit « Ah, ils font leur expérience. » Vous avez entendu cette niaiserie-là? « Ah, il fait ses expériences. » Oui, c'est comme si tu prends, je ne sais pas, une hache, tu fais l'expérience de te couper un doigt. Snack! Il a fait son expérience. Mais il te manque-tu un doigt après? Je pense que oui. Plante-toi une hache dans le front, tu fais une grosse expérience. Peut-être des chances que tu ne peux pas le raconter à personne. Mais il y a quelque chose de stupide dans le monde qui dit, fais du mal, c'est pas grave, c'est une expérience. Le mal affaiblit spécialement le croyant, ça nous rend de plus en plus insensibles au Saint-Esprit. Et faites attention, on peut éteindre sa lumière dans notre vie, cautériser notre conscience à plus rien sentir et commencer même à devenir plus que le monde. Un croyant qui abandonne son Seigneur est souvent plus dégénéré dans son comportement qu'une personne du monde qui est à la limite à peu près normale. Il y a un danger de tous les bords. Il y a un danger d'être élevé dans une famille non chrétienne, tu n'as jamais entendu parler du Seigneur, tu vis n'importe comment, toutes sortes de théories, et là, finalement, tu souilles ta vie profondément, puis ça marque, parce que la mémoire se rappelle de ce qui s'est vécu. Si tu as eu des gros problèmes avec la dope, puis tu as des grosses pressions, plus tard, tu deviens chrétien, tu aimes le Seigneur, super. Mais rappelle-toi que dans le temps de pression, le mal a fait un affaiblissement dans ton âme. Si tu n'as jamais pris de cocaïne de ta vie, tu sais, c'est de la poudre blanche. Et puis, tu vois un petit sac de poudre blanche. Et puis, quelqu'un dit, « Tu peux-tu aller jeter ça dans la poubelle, s'il vous plaît? » Ben, pas de problème. Dans la poubelle. Si tu as passé des années là-dessus, puis là, c'est fini, tu aimes Jésus, mais là, tu te fais écœurer à l'Église, parce que Dieu prépare toujours l'Église pour t'écœurer. Si vous ne l'avez pas oublié, là, je veux juste vous le rappeler à tout le monde, dites, là, parce que c'est le lieu du test. OK, c'est l'amour fraternel, c'est sûr. Mais puisqu'il dit « supportez-vous les uns les autres », c'est rare que tu supportes quelqu'un qui est très plaisant, pas vrai? Alors, finalement, il y a des temps dans ta vie où est-ce que la pression monte, où est-ce que ça va mal, où est-ce que tu es injustement traité. Et puis, si on croit à la souveraineté de Dieu, est-ce que ça, c'est permis? Il dit « il n'y a pas un cheveu qui tombe de ma tête sans que ce soit la permission de mon Père ». À plus forte raison, il y a des gens dans l'Assemblée qui peuvent, des fois, te taper ses nerfs. Ils peuvent te traiter injustement. Ce n'est pas juste qu'est-ce qu'ils font. Mais est-ce que je crois quand Jésus dit « Hey, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Puis quand là, tu sais, tu es vraiment là, sur le bord, tu as le goût de tout sacrer ça là en disant « Faut moi là, bye-bye tout le monde, moi je ne peux plus vous voir la face. » Je sais que ça ne vous arrive jamais à vous autres, là, mais ça peut peut-être m'arriver des fois. Eh bien finalement, c'est comme si le Seigneur dit « Attends, tu vas aller où toi là? Au ciel? » C'est pas le temps, je ne suis pas venu te chercher encore. Tu m'attends. Et là, finalement, si j'ai eu des manières dans le monde de régler mes tensions, de régler mes problèmes, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la sexualité, que ce soit, je ne sais pas moi, le pouvoir, l'argent. Tu sais, dans ça, il y a plein de mots. Il y a des gens, quand ils dépriment, ils s'en vont au magasin acheter. Il y a toutes sortes de manières de fuir. Comment je m'attends à Dieu? Le monde nous en fournit d'une main incroyable. On est dans un monde prospère qui nous en offre des moyens. Il en a des moyens. Même aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de sortir de chez vous, tu sors sur un ordinateur, et puis tu sais, Amazon va venir te porter directement ton stock que tu veux. Par contre, si tu te prives régulièrement du mal, parce que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, puis la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Dites-vous une chose, moins vous connaissez le mal, plus c'est facile de le résister. Si vous n'avez pas de communion avec le mal, si vous n'avez pas communié, mangé le mal, pour quelqu'un qui n'a jamais pris de dope, il ne sait même pas où aller acheter ça. Quoique le gouvernement l'a fourni à cette heure, là, les épais, là, mais anyway, t'sais. Mais tout dans notre vie, comment j'entretiens le terrain de mon cœur. Le Seigneur nous le dit dans sa parole, entre autres dans les Proverbes. « Mon fils, donne-moi ton cœur, car de lui viennent toutes les issues de la vie. Donne-moi tout ton intérêt. Prends jamais le chemin du mal. Appelle jamais le mal bien. » Parce qu'on est tellement tordu qu'on peut appeler le mal de manière esthétique, on peut carrément, philosophiquement, l'amener comme si c'était bien. Notre société nous le prouve à tous les jours aujourd'hui. Alors, finalement, il dit, vous l'avez reçu, cette espérance, et parmi eux, il y a des gens qui ça a le plus d'impact que d'autres, parce qu'il y a des cœurs plus réceptifs que d'autres. On est responsable d'entretenir nos cœurs. On est responsable les uns des autres. C'est pour ça que Paul, entre autres, en tant que quelqu'un qui voit les conséquences de son ministère, ça a produit finalement un disciple qui s'appelle Épaphras. Épaphras est parti finalement, entre autres, à Colosse. Il a annoncé aussi l'Évangile à Laodicée, à Hiérapolis, et ça a fait trois églises, et il s'occupe d'eux. Et Paul dit, depuis qu'on en a été informé, il est au courant de ce que ça a donné, alors qu'est-ce qu'il fait? Lui et son équipe vont continuellement prier pour eux. Prier est une activité spirituelle fondamentale pour le développement de l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est un autre problème qu'on a dans notre société, très pragmatique, très mécanique, très « soyons pratiques ». Beaucoup de gens, même dans nos églises, ne savent pas prier plus que 2 minutes. Ils ont fait connaître leurs besoins, c'est fini. Ils vont rendre grâce à Dieu pour le dîner, le souper, le déjeuner, c'est fait. Mais quand vous entendez qu'il peut y avoir des temps d'intercession puis de prière devant Dieu qui peut durer 1 heure, 2 heures, qu'on est dans la présence de Dieu, je vous le dis, dans notre type de culture, quand je parle à du monde, j'en entends de moins en moins des gens qui savent développer une relation authentique avec le Seigneur par la prière et l'intercession. Aventurez-vous jamais dans un ministère si vous ne savez pas prier. Parce que là, vous êtes monsieur technique, monsieur manipulation, monsieur psychologique, monsieur méthode ABCDF. Non. Vous devez savoir comment vous passez du temps devant Dieu. Comment vous allez recevoir de lui sa direction. Paul y intercédait pour ces gens-là. Et il rendait grâce à Dieu parce qu'il voyait une chose. Qu'est-ce qui le rassurait de voir que c'était des vrais croyants? Qu'est-ce qui, d'après vous, est une manifestation que c'est des vrais croyants? La charité. Pourquoi c'est la charité plus que la foi ou encore une fois l'espérance? En passant, la foi et l'espérance sont aussi la même chose. Mais pourquoi la charité? OK, c'est le fait de... Mais il dit un peu plus loin. Regardez, je vais vous le relire. Ceux qui dormaient, faites les réveiller, je vais juste relire la parole de Dieu. C'est plus moi qui parle là. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Il est dans le monde entier. Il porte des fruits. Il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Avez-vous remarqué? Ce n'est pas parce que certaines personnalités sont des meilleurs gars que d'autres. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, c'est parce que toi, t'as un bon caractère ». L'origine de la charité ne vient pas du bon caractère de la personne. Elle vient du Saint-Esprit. La charité, de quelle charité l'Esprit vous anime? Est-ce que vous me suivez? Vous voulez savoir, finalement, spirituellement, où vous êtes rendu dans votre communion avec Dieu, à quel niveau de maturité vous avez? Faites attention, quand Paul écrit aux Corinthiens, il les traite de charnels. Je n'ai pas pu parler à vous comme à des hommes spirituels, en d'autres mots, matures en Christ, dirigés par le Saint-Esprit, mais à des hommes charnels, à des enfants en Christ. Ils ne remettent pas en question leur salut, là. Vous êtes des immatures. Et pourtant, il leur dit, ils ont énormément de connaissances. Ils ont de la connaissance. Paul a été leur apôtre. Il a été leur pasteur. Pendant plus d'un an et demi. Puis quand Paul faisait une église, à l'époque, là, on se retrouvait à tous les jours à l'église. Ce n'était pas une fois par semaine, d'autres une fois par mois, un 10 minutes ici, un 10 minutes là. C'était intense. Et là, tu as l'apôtre Paul comme enseignant. Mais ça, c'est pas pire, ça, non? Hein? Et malgré toute la connaissance qu'ils ont, et certains vous disent parce que ça se mesure, la spiritualité parle de Saint-Esprit qui fait des miracles. Non, ils ont beaucoup de dons dans l'église de Corinthe. Beaucoup, beaucoup de dons. Ça parle en langue, à même plus avoir le temps de parler dans leur langue. Ils sont très, très, très spirituels. Ils n'ont même plus besoin d'intelligence. Ils ont passé le niveau de l'intelligence, eux autres. Paul dit finalement, vous avez une immature incroyable, car ce qui manque chez vous, c'est l'amour. C'est l'amour qui vous manque. Vous aimez pas les uns et les autres. Vous avez toutes des petites gangs. Vous n'êtes pas concernés par le corps de Christ. Et c'est la maturité, elle se mesure à la charité. Parce que la foi augmente quand vous regardez sans arrêt. Normalement, plus tu vieillis dans le Seigneur, plus tu es supposé de devenir zélé. Tu n'es pas supposé de t'éteindre, tu es supposé au contraire de grandir dans la foi. Pourquoi? D'abord, la foi vient de quoi? Parce qu'il dit ici, elle vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17, OK? Elle vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et ici, ils ont été informés, ils ont été enseignés par Épaphras. C'est pour ça qu'ils ont une foi en Jésus-Christ. Ils ont cessé d'avoir la foi dans leurs idoles, parce qu'il y avait toutes sortes de croyances aussi dans cette ville. Ils ont cessé de croire ce qu'ils croyaient avant, où ils mettaient leur confiance, et ils l'ont mis en Jésus-Christ sur la déclaration d'Épaphras. Ils ont une foi en Jésus-Christ par rapport à ce qu'ils ont entendu. Ça marche? Donc, la foi, elle grandit parce que plus vous avez du temps, plus vous marchez avec le Seigneur, plus vous avez des expériences. Cette parole se réalise. Pas vrai? Quand, encore une fois, Pierre va dire à Jésus, « Non, nous, on a cru et on a connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Non seulement ils ont cru, il y a plein de choses qu'on peut croire, mais qu'on n'a pas encore connues. Un petit test que je fais tout le temps, mais bien facile. Qui croit que Bangkok existe? Bangkok. Qui a déjà été à Bangkok? Vous ne pouvez pas y croire. Vous avez connu Bangkok. Nous autres, on n'y a pas été, on croit que ça existe. Mais vous deux, si vous y êtes été, vous avez été, eh bien, vous avez connu Bangkok. Vous voyez la différence entre les deux? Le travail que le croyant doit faire, c'est de recevoir abondamment la parole de Dieu. Que Christ habite abondamment, que la parole de Christ soit abondante en vous. OK? Donc, tu reçois abondamment la parole. Lis ta parole d'un couvert à l'autre, expose-toi la parole de Dieu, fais un storage, et là, tu vas avoir beaucoup de choses à croire. Ça marche? Mais le poids d'un chrétien, parce que c'est une expression chez les Hébreux, la lourdeur de quelqu'un, le poids de quelqu'un, je sais que nous autres, on veut tout être léger, mais dans le sens chez les Hébreux, c'est comme le pied du vieux bœuf, il est pesant, il est plus solide, il est plus ferme. Dieu aime les hommes et les femmes de foi pesante. Il nous aime pesants. Parce que le poids, c'est qu'est-ce que vous avez connu maintenant de ce que vous avez cru. C'est le fun de parler à quelqu'un qui croit que Bangkok existe, mais c'est bien plus le fun d'inviter à souper quelqu'un qui a été à Bangkok, qui vend des photos de Bangkok, puis qui vous raconte l'histoire de Bangkok, et puis comment ils ont eu du fun à Bangkok. Et puis ils sont venus avec le virus. Non, il n'était pas en mode dans ce temps-là, c'est vrai. Donc, vous comprenez, maintenant, c'est bien le fun d'entendre parler un chrétien de tout ce qu'il a lu. Et puis là, en passant, personne n'a l'excuse de ne pas avoir une foi éclairée. Je veux dire, tu as tous les plus grands prédicateurs. Après Jésus-Christ, il paraît que même Piper est là. Donc, vous avez des prédicateurs absolument incroyables à la grandeur de la planète qui sont disponibles dans votre ordinateur chez vous. Vous avez accès à de l'information comme jamais. Donc, les ignorants, c'est vraiment ceux qui veulent être ignorants. Tu ne peux plus être ignorant aujourd'hui. C'est impossible. C'est que tu veux être ignorant. Par contre, imaginez finalement d'inviter à souper, encore une fois, quelqu'un qui a plein de Piper dans sa tête. Et vous avez aussi le choix de connaître quelqu'un qui a vécu plein de choses avec le Seigneur. C'est comme, encore une fois, quelqu'un qui peut t'amener l'encyclopédie, te montrer où ça se passe, et versus quelqu'un qui t'amène les photos où il a été, puis il va te raconter son voyage. Le Seigneur veut nous donner un privilège énorme avec lui. La vie éternelle, ce n'est pas de savoir qu'il existe, c'est de le connaître. Et je ne veux pas être méchant, mais ce qui m'intéresse quand je parle avec les gens, ce n'est pas tout ce qu'ils savent. Parce que moi, avec, je lis. Je peux lire 3 livres par semaine. J'aime ça lire comme un malade mental. Mais je ne peux pas parler de tout ce que j'ai lu parce que je n'ai pas le droit, à moins de citer l'auteur. Et quand je prépare un message, j'écoute, Seigneur, j'ai-tu le droit de parler de ça, moi-là? Parce que, tu sais, si je te demande d'approuver ce que je dis, ben il faut que je sois, que tu me donnes la permission de parler en ton nom là-dessus. On se connaît-tu? Alors, finalement, quand j'écoute les gens parler, j'essaie d'être simple, pas double. Mais je fais toujours des... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'essaie de voir le nombre de fois que vous avez parlé de vous dans la conversation, versus combien vous m'avez parlé du Seigneur dans la conversation. Pas juste mettre des Jésus partout pour rien, là, mais comment vous en parlez comme un vrai témoin. Comment vous êtes en train de toujours dire, hey, j'ai hâte de voir comment le Seigneur va nous sortir de celle-là encore. Ouais, j'ai raconté, oh, moi, ça m'a rappelé telle chose avec le Seigneur. Puis elle, moi, là, j'aime les amoureux du Seigneur. Les amoureux de soi-même, c'est un petit peu plate. Pas vrai? Parce qu'ils prennent toute la conversation puis ils parlent rien que d'eux autres. Ils ne sont même pas intéressés même de savoir ce que tu as vécu. Il faut qu'ils parlent de lui. L'Église doit être un chandelier. Puis les chandeliers, comme celui de l'Apocalypse, là, il y en a 7, chaque Église est un chandelier mis dans une région. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui brûle pour que la lumière se fasse dans le chandelier? Pardon? De l'huile. Pas de chandelle, de l'huile. Et qu'est-ce que c'est, l'huile? L'Esprit-Saint. Et c'est quoi la petite mèche? Nous autres. Et quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tu l'allumes. Alors, regardez bien, c'est vraiment trippant cette image-là. Elle est bonne. On est des mèches, ça marche? On est supposé d'être trempé dans le Saint-Esprit, nourri de sa parole, de foi et d'espérance. OK? Foi passée, espérance future. Amour maintenant. Ma foi, elle va varier en fonction du nombre d'années que tu marches avec le Seigneur, tu l'as connu. Fait qu'il y a des gens qui ont plus de foi ici que d'autres. Espérance, qu'est-ce que je regarde en avant pour renouveler mon espoir de persévérer? Parce qu'à un moment donné, tu as le goût de sacrer tout ça là. Mais qu'est-ce qui fait que certains lâchent jamais, malgré tous les coups bas qu'on leur a faits, malgré tous les couteaux qu'on leur a mis dans le dos, malgré toutes les niaiseries qu'on a faites? Qu'est-ce qui fait que certains continuent continuellement? C'est l'espérance. Donnez une illustration. Tu sais, le monde a une expression le vendredi. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est la seule fois qu'ils parlent du Seigneur. Thank God, it's Friday. Pas vrai? Mais savez-vous quoi? Ça marche. Dans le monde, là, la fin de semaine, c'est une espérance qui fait que tu t'offres ta semaine. D'abord, je ne sais pas si on donne les payes encore le jeudi, mais finalement, le jeudi, on ouvrait les magasins jusqu'à 9h dans ce temps-là, quand j'étais petit, pour aller faire des commissions. Le vendredi, tout le monde est à la maison pour inviter le souper. La fin de semaine commence. Party time. Tout le monde, tu sais, si on lâche les esclaves pour 2 jours pour faire semblant qu'on est libre, et puis lundi matin, tu remets ta chaîne, tu retournes finalement travailler. Donc, la fin de semaine, c'était un temps qui te donne de l'espoir pour revenir au travail, t'es renouvelé. Le croyant, s'il n'est pas en train de se nourrir de son espérance, il va brûler. Encore une fois, on est une mèche dans l'huile du Saint-Esprit, nourrie de sa parole. Ma foi augmente de plus en plus, mon expérience de Dieu est supposée d'augmenter de plus en plus. Je l'ai de plus en plus connue avec le temps. 2, mon espérance est toujours pour rester quoi? Dans l'amour du présent, dans l'amour des frères. De continuer à aimer les frères à cause de l'expérience qui me rappelle que Dieu est fidèle, et 2, à cause surtout de l'espérance qu'il y a encore plus de stock qu'on va découvrir de Dieu. Donc, tu restes dans le présent à aimer. Et comme une mèche, quand elle commence à manquer d'huile, la mèche, qu'est-ce qui arrive? Elle brûle, tu sais, tu as un petit bout de rouge là, qui descend, et puis ça ne fait pas beaucoup de lumière. Mais une mèche bien huilée, bien trempée dans l'huile, elle te fait une mosuse de belle flamme, puis elle ne brûle pas. Elle boucane un peu des fois quand tu la mets trop haute. Mais est-ce que vous voyez l'image? Le croyant qui est dans l'huile du Saint-Esprit et qui finalement se nourrit sans arrêt de l'espérance et qui se rappelle de la fidélité de Dieu continuellement. C'est ça, de rendre grâce à Dieu, de le remercier de tout ce qu'il a fait et de se rappeler sans arrêt, sans arrêt. Peut-être qu'il y en a qui sont tannés, « Es-tu fatigué avec ces histoires? » Non, les histoires, c'est les temps qu'on a eus avec Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Des temps qu'on a eus avec Dieu, toutes sortes de projets qu'on a vécu avec Dieu, toutes sortes d'histoires qu'on a racontées sur le Seigneur, ça te rappelle sa fidélité. Et puis là, tu dis, l'espérance, ça vaut la peine d'espérer ce qui en vient d'avant. S'il a été fidèle avant, il va être fidèle après. Donc, aujourd'hui, tu acceptes de rester là, ici, là avec Dieu, par amour. Son amour à lui. On peut espérer, quand tu lâches une relation avec quelqu'un, c'est pourquoi? Tu sais, il y a des temps, des fois, je ne sais pas moi, tu casses. Ça se dit-tu encore, ça? Casse-toi, ça. Quand tu casses, là, ça veut dire quoi? Hein? C'est que tu n'espères plus rien. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une relation que quelqu'un dit « Non, moi, j'y crois plus. J'en peux plus, j'y crois plus. Je la vois juste arriver, je la vois juste arriver, j'ai mal au cœur. J'en peux plus. Il tousse mal, il marche mal, fait tout mal. » Tu sais, quand tu penses à un cap de non-retour émotif, là, il n'y a plus d'espoir. Mais tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Il y a de la vie. Si on se prive de l'espérance, et cette espérance, elle vient de quelque part. On va en parler la prochaine fois. L'espérance. Donc, on est un chandelier. Et l'amour que Dieu produit au milieu de nous, c'est lui qui le produit. Nous avons appris de quelle charité l'Esprit vous anime. On est dans l'huile. Il nous allume, on ne brûle pas. Et en passant, on est allumé par tous les défis qu'on doit avoir dans nos relations les uns avec les autres. C'est le défi des relations qui nous allume. C'est de ça qu'on cherche la lumière du Saint-Esprit. On cherche à dire, OK, la relation n'est pas au point. OK, Seigneur, on s'en vient de voir. On veut voir ici, qu'est-ce qui empêche notre relation de vraiment brûler ton huile plutôt que de nous consumer en ce moment. Si vous ne le trouvez pas, vous allez brûler, c'est certain. Mais c'est pire si vous ne le trouvez pas. C'est qu'en réalité, demandez-vous avec qui vous marchez. Qui vous apprend ce que vous savez en ce moment? On remet ça au Seigneur. Seigneur, un peu comme encore les... Seigneur, tu sais toutes choses. C'est ça qui est vraiment rassurant. Tu sais exactement où chacun de nous ici est rendu avec toi. On peut donner des apparences de toutes sortes de choses, mais on ne peut pas te tromper, toi, Seigneur Dieu. Et tu nous aimes. Et tu nous offres ce qu'il y a de meilleur dans tout ce que tu as créé, toi-même, Seigneur Jésus. Tu t'es offert à nous. Tu nous offres une relation avec toi par ton Esprit Saint au moyen de ta parole, de tes promesses. Seigneur Dieu, il ne peut pas en avoir plus. Père, tu nous as tellement aimés que tu n'as pas épargné ton propre Fils pour rétablir une authentique et véritable relation entre nous et toi, afin qu'on soit présenté devant toi à cause de ton œuvre, à cause de toi, Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton sang, qu'on soit présenté devant toi irréprochable. Seigneur, qu'on puisse être le chandelier dans la région qui brille, qui produit beaucoup de lumière. Parce que, Seigneur Dieu, on te demande d'être rempli de ta présence, d'être dans ta plénitude à toi, d'apprendre à tout trouver en toi, Seigneur Jésus. Car tu vas tout nous donner, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété avec toi. Tout. Seigneur Dieu, qu'on puisse abandonner nos idoles muets, qu'on abandonne nos philosophies de pensée positive, qu'on abandonne nos impuretés, qu'on abandonne, Seigneur Dieu, nos convoitises, nos passions, pour se tourner vers toi afin de marcher avec toi. Parce que, Seigneur, le monde a besoin de témoins, pas des perroquets, des témoins de toi, Seigneur. Des témoins, Seigneur. Fais-nous des témoins. Et que notre foi, d'année en année, augmente. Parce qu'on a une expérience de toi, on t'aura connu. On n'aura pas juste cru, on aura connu que tu es vraiment le seul chemin qui mène à Dieu et que ta parole est la vérité. Seigneur, fais de nous une église qui est une bonne nouvelle, car beaucoup dehors, dans les ténèbres, pleurent, sont angoissés, sont tourmentés. Seigneur Dieu, que tu puisses nous donner encore une fois de parler en ton nom, ta parole, mais comme témoin. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.